Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Alex.
Bon, ouais. C'est pas comme si, mais...
Mais quoi?
Je sens pas.
Hein, qu'est-ce que tu sens pas?
Moi, je suis prêt.
Il est bizarre, le gars.
Oui, une fois je l'ai vu, c'était vachement bien.
Oui, mais qui... L'invité? Alors,
moi, j'ai remarqué, il porte souvent un t-shirt rouge, rose.
Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Fraise.
Oui.
Oui, parce que j'avais peur que ce soit une vraie fraise. Moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'on invite une fraise.
Non, mais c'est ce qui se passe, là-haut.
C'est... Bon, attends, on peut recommencer le sketch là.
Oui, c'est nul, vous parlez de rien, puis la blague fraise.
Mais c'est absurde.
Là, je pige rien.
Non, mais comme on reçoit le plus brillant représentant de l'humour absurde, en fait, avec Guillaume, on vous la prépare un petit sketch en imaginant que l'invité ce serait plutôt une fraise.
Voilà, bonjour, votre actualité, c'est la cueillette. comment se passe cette tournée à Plougastel, etc.
Mais on s'en fout de ça.
Oui, mais c'est le principe, c'est absurde.
C'est le principe, c'est absurde.
Voilà.
Mais c'est parce que l'invité fait quelque chose qu'il faut faire comme lui.
C'est vrai que si on reçoit Rocco Siffredi,
on serait incapable de faire comme lui. Moi, déjà avec une seule.
Oui, typiquement. Exemple élégant, c'est ça,
non,
bravo. Bah, allez au boulot, préparez-moi Monsieur Fred.
J'espère qu'un jour on recevra Marc Lavoine.
Mais pourquoi?
Comment c'est la vie d'une céréale? Est-ce que vous préférez être en flocon?
C'est absurde.
Non, c'est nul.
Ouais.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up publique qui change chaque jour d'actualité comme on change de ministre. De chemise, pardon. Et voici les trois informations remaniées par la blague. Partout en Europe, des humoristes ou des acteurs comiques se lancent en politique, comme l'Italien Beppe Grillo. Et ils ont pour atout une forte personnalité, un sens de la communication, un positionnement anti-système et puis le sens de la formule.
Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
Dimanche, on passe à l'heure d'été, mais en 2021, ce sera fini puisque l'Europe a voté une directive pour dire stop au changement climatique. Au changement d'heure, pardon. Voilà. Quelles seront les conséquences?
C'est l'heure H.
Le capitalisme ne s'était pas encore complètement emparé de l'amitié. C'est chose faite depuis qu'il existe la location d'amis pour une soirée concert ou le temps d'un jogging.
Je choisis mes amis pour leur aspect et mes ennemis pour leur intelligence. Et toi, tu me parais un peu malin pour être mon ami.
Moi, je l'ai loué en leasing il y a tellement d'années que ça y est, j'ai officiellement fait l'acquisition de Alex Vizorek.
En tout cas, le leasing a commencé un peu avant, mais c'est vrai que vous en avez deux pour le prix d'un. Allez, je vous offre malgré tout une belle équipe. À 17h20, celle qui, si elle doit partager son héritage avec toutes les personnes qu'elle appelle ma sœur, risque de ne pas léguer grand-chose à chacune, c'est Rukia Tawedraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Alors, il y a quelques temps, certaines disaient que les Africaines faisaient beaucoup trop d'enfants. Ça me fait marrer quand je vois que c'est les mêmes aujourd'hui qui se réjouissent que grâce à l'Afrique, le français sera bientôt une des quatre langues les plus parlées dans le monde. Vous l'avez compris, je vais parler de la francophonie.
Très bien, à 17h30, celui qui se prétend écolo alors que tous les jours, avec son micro, il va polluer la quiétude de nombreux Français, la marée noire du journalisme, Guillaume Meurice.
C'est vrai, bonjour à tous. Je vais vous parler écologie et transport aujourd'hui. Je suis allé voir des professionnels de la pollution, mais qui sont ?
Avec une étiquette écologique.
Voilà, ça va, il y a une étiquette. Donc c'est bon, on est bon.
À 17h40, celle qui, depuis qu'elle a découvert qu'elle avait à peu près le même mode de vie que lui, a trouvé un peu de sympathie à Christophe Castaner, c'est Juliette Tarnot, bonjour.
Mais tellement pas.
Arrêtez
pas.
De mentir.
Vous fréquentez les mêmes établissements.
Bien sûr.
Mais tellement pas, je réédite. Monsieur Fraise ? Eh bien, les tournesols.
Oh là, c'est malin, On reste vraiment dans le champ.
Attention. Et voici celui qui va... On ne sait pas très bien ce qui va... D'ailleurs, dites-nous qui vous êtes, c'est plus simple.
Vous l'avez dit.
C'est vrai que...
Je vais quand même pas me répéter, c'est pas mon genre.
Ah mince.
C'est vrai qu'au niveau suspense, on a un peu...
C'est comme ça que l'émission, elle commence normalement, et on commence pas tant que vous avez pas dit, alors on fait quoi?
Alors je suis Marc Fraise, ou Monsieur Fraise, comme vous voulez.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour Monsieur Fraise.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes sur scène à l'Européen jusqu'au 29 juin et vous êtes même à la rentrée en tournée dans toute la France. Je vais donner plein de dates, notamment à Lille au Splendide le 14 novembre ou à Alençon, ce sera le 10 décembre. Eh bien, je vous laisse entre les mains d'Alex Vizorek et même de Guillaume Meurice, qui a des anecdotes.
On connaît bien le camarade, voilà, vous l'avez appelé Monsieur Fraise, c'est le personnage qui joue sur scène depuis presque 30 ans. Il a répondu, bah si, 99.
Je me suis dit, il a fait une école de commerce.
Et j'ai calculé. Ouais, c'est vrai. Ne me donnez pas mon argent.
Elle a été préparée.
Donc 20 ans.
Et vous avez 73 ans, rappelons-le aujourd'hui.
Marc Fraise, vous avez hésité quand vous avez dit les deux. C'est celui qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de films, Au Poste, Problemos.
Les Ch'tis, on l'a vu aussi dans Les Ch'tis.
Non, ça non. Vous voyez, elle essaye de me piéger. Un problème de calcul, mais je sais très bien qui vous êtes. Jean-Marie Bigard, c'est humour. Anti-féministe. Non, aujourd'hui vous arrivez à séparer les deux. Tout à un moment, c'était peut-être plus compliqué. C'est Monsieur Fraise qui avait un peu pris le pas sur Marc Fraise, l'acteur qui s'est joué beaucoup plus de choses que ce rôle-là.
Et non. Ça, c'est une question.
C'est une question. Est-ce que ça a été compliqué de séparer les deux? Est-ce que vous aviez d'abord voulu vous cacher derrière ce personnage-là?
Protégé. Là, on a entendu Coluche tout à l'heure. J'avais entendu qu'il s'était fait grossir exprès. Parce qu'il disait que c'est déjà plus drôle quelqu'un de gros. Mm-hmm. Il faisait référence à De Vos à l'époque. Et puis en plus, il se protégeait parce que je sais pas. Il faut un personnage comme ça derrière. On n'est pas atteint soi-même. Je sais pas. C'est ça.
Si vous deviez le décrire à quelqu'un qui ne sait pas qui c'est, ce Monsieur Fraise, vous le décririez comment?
Comme quelqu'un de gentil con. C'était très classique, mais juste un petit peu exacerbé. Enfin, je sais pas.
Si je le décris comme un Chaplin avec les défauts du français, c'est-à-dire que il râle, il feignant, mais par contre c'est le personnage de Charlot un peu.
Bah, dis donc, bah merci pour les auditeurs.
Quoi?
Ouais, ils sont français les auditeurs.
Non, j'ai dit les défauts. Tout le monde n'a pas les défauts du français.
Non, mais depuis la Coupe du Monde.
Il y a un côté français moyen. Ouais.
Mais parce que je sais dans le voilà.
c'est vachement préparé.
Je savais qu'il ferait des réponses courtes, mais à ce point-là, j'étais pas sûr.
T'as du bol, j'en fais déjà.
Ouais, c'est vrai, je sais. Bah, on vous a eu le premier été.
Je suis en plein effort là.
Sandrine Blanchard, dans Le Monde, que souvent je suis très d'accord avec elle, elle dit: autant vous prévenir, Monsieur Fraise est un spectacle déroutant réservé aux esprits curieux, esprits conventionnels s'abstenir. Je suis pas d'accord. Je trouve que tout le monde peut adhérer à ce Monsieur Fraise. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça?
Alors, tout le monde peut, mais effectivement, ça m'arrive de regarder le public et force est de constater que tout le monde peut et puis beaucoup de gens peuvent pas.
Et pourquoi
C'est-à-dire que vous le voyez à l'œil nu?
À l'œil nu, ouais. À quelqu'un qui rit et puis l'autre qui est scandalisé, ça il y a un contraste hein, là, au niveau des yeux.
Et pourquoi? Pourquoi il est scandalisé? Parce que moi, ce qui m'angoisse quand je vois un humoriste sur scène qui maîtrise pas son sujet, à ce moment-là, j'ouvre les yeux et ça me stresse pour lui. Avec vous, on n'a jamais ça. On sent que vous savez très bien d'où vous partez. On sait très bien que vous savez où vous allez arriver.
Je suis toujours désolé quand ça plaît pas, mais c'est comme ça. Je vais pas changer mon fusil d'épaule.
Mais vous jouez vachement sur le malaise. Il y a tout un travail sur le malaise avec des silences vraiment qui durent des plombes.
Ouais, moi j'aimais bien l'idée de que les gens serrent les fesses avant de rire.
Voilà,
ouais.
C'est ça en fait. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a encore des gens qui viennent vous voir en vous connaissant pas et du coup qui mettent genre une demi-heure à rentrer dans le spectacle ou qui rentrent jamais et qui se barrent.
Alors, il y a de tout, mais effectivement, il y a des gens qui, s'ils ne sont pas rentrés au bout de 10 minutes, ils vont vite sortir.
Oui, ça donne le temps, quoi. Les 10 premières minutes de nuit.
La plupart de la salle, je dirais 95% de gens adhèrent et rient fort, d'un rire, comme vous dites, presque d'angoisse. On dit dans la presse que vous êtes un anti-héros. Moi, je trouve que vous êtes un anti-comique, c'est-à-dire que tout ce qu'on dirait à un jeune humoriste de pas faire, vous le faites. C'est ça votre recette?
On n'était pas tellement nombreux, pas aussi nombreux en tant qu'humoriste il y a
70 ans.
mais déjà à l'époque, je trouvais quand même qu'il y avait un manque d'anti-héros. C'est pour ça que je suis parti de cette envie de dire, bah, lui, il va arriver, il aura du mal.
En fait, c'est l'inverse du stand-up qui est un style qui est très efficace.
Même
performant.
Le stand-up est arrivé plus tard.
Ouais, bien sûr.
Quand il est arrivé, bah, moi, j'étais tout prêt, justement, à sortir du lot.
Ouais, c'est sûr.
C'était plus simple.
Monsieur Fraise avec nous est à l'Européen jusqu'au 29 juin. Et à Quincy, par exemple, sur Sénart, le 20 mars.
Ça va être dur, ça.
Ouais. Antibes, 14-16 mai.
Ils sont durs, là-bas.
Pourquoi ? Hit Going Up the Country sur France Inter. Il est 17h20. Monsieur Fraise est avec nous. Et pour l'entourer?
Eh ben, déjà, il y a Claude sur Twitter qui est vigilant, qui a dit maintenant on sait pourquoi Alex Vizorek aime les femmes mûres. Il rajoute 10 ans d'âge à tout le monde. C'est pas entièrement con. Merci Claude. Et autour de la table, il y a Rukyata Ouedraogo, Guillaume Meurice et Juliette Arnoux.
Jupiter, c'est un style.
Ah.
Jupiter, c'est la mode.
Oh.
Jupiter, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que je le vaux bien.
Et on commence par les titres.
Nathalie Loiseau, Mounir Majoubi, Benjamin Griveaux ont quitté le gouvernement.
C'est comme si Neymar, Cavani et Mbappé quittaient le PSG en même temps.
Selon un sondage, un Français sur deux se déclare pour un militaire à la tête du pays en cas d'attentat.
Oui, dans ce cas-là, on préférera un type de l'armée plutôt qu'un des gars de la marine.
Mais brève.
Oui, aucune brève n'a démissionné aujourd'hui. Oui, je vous ai été surprise, mais c'est vrai.
Et on commence par l'invité de la matinale.
Oui, Jean-Michel Blanquer était sur France Inter. Il a notamment expliqué que...
En 2019, nous supprimons certes des postes, mais nous créons aussi des heures supplémentaires.
Ouais, bah ce qu'il propose donc en gros, voilà, c'est que les profs travaillent plus avec des classes plus grandes pour une augmentation ridicule pendant que monsieur là, il veut moins de chômage, hein, faudra pas s'étonner après si le niveau baisse, monsieur Blanquer.
Attendez Alex, parce que voilà, vous faites plus de blagues là, vous faites du militantisme maintenant.
Mais c'est quand même pas vous qui allez me faire la leçon là-dessus, Charlie, excusez-moi, mais aussi c'est stratégique aussi.
Stratégique.
Et ouais, les profs c'est 80% des auditeurs. Donc faut faire un peu du populisme, comme ça ils n'écoutent pas les grosses têtes et puis on va pas se gêner. Blanquer, démission Blanquer, Blanquer, si tu nous écoutes.
En tout cas, on a déjà perdu tous les profs de maths hein, depuis le début de l'émission. Alors, gouvernement Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, a confirmé vouloir supprimer la déclaration de revenus obligatoire.
Ouais, il faut faire gaffe mec, parce que Thomas Thévenoud va porter plainte pour plagiat.
Passons au municipal 2020 à Nice. Un sondage promet un un match très serré entre Estrosi et Ciotti.
Octogone, octogone et en première partie de Boubacaris. On a un gros plateau.
Marine Le Pen est en campagne à La Réunion.
Oui, elle était sur Radio Freedom. Eh ben, elle s'est sentie libre. Elle s'est sentie libre de donner son avis sur ses anciens amis. Sophie de Montel, ancienne collaboratrice, est-ce qu'elle a lu le livre de Sophie de Montel ?
Madame Montel, elle me fait penser à ces femmes qui divorcent et qui, pour se venger de leur mari avec lequel elles ont été mariées 20 ans, les accusent de pédophilie, vous voyez. Je ne tenais pas à mettre sur mes doigts des choses désagréablement odorantes.
Voilà, bonne ambiance, bonne ambiance. Mais comme on était lancé que c'est Radio Freedom, petite question sur Florian Philippot, qui prétend avoir eu toutes les bonnes idées que Marine Le Pen défend pour l'outre-mer.
Personne n'arrive aux chevilles de Florian Philippot à part ses chaussettes, quoi, si je comprends bien.
Bam ! Et on se dit que c'est bête que le journaliste ne l'ait pas interrogé sur son papa.
Eh oui, international à présent. Algérie, une association de jeunes dénonce la tentative de récupération de ceux qui lâchent Bouteflika.
Oui, il semble que ceux qui ont lâché Bouteflika récupèrent beaucoup mieux que Bouteflika lui-même. Mais ça, c'est pas compliqué.
Télévision maintenant, selon Laurent Delahousse, je le cite, l'information peut être une arme de destruction massive.
Et voilà, et c'est pour ça qu'il l'utilise très peu lui-même.
Télévision, toujours. Christian Quesada, le champion du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, il a été arrêté pour détention d'images pédopornographiques.
C'est une info que j'ai trouvée, j'ai trouvé cette info-là.
Ah, je sais pas où.
Sur le site de Jean-Marc Morandini.
Ah, oui, évidemment.
C'est un peu rigolo.
Bien informé. Alors, et des brèves.
Oui, des brèves. Pas de Calais. Un camion perd des milliers de clous. L'autoroute A16 fermée pendant 3 heures. Jésus revient et il est chauffeur dans le Nord, apparemment.
La dernière.
Et la dernière. Quand, deux points, l'homme qui torturait des chats, jugé après la mort d'un chien. Les drames de la diversification des entreprises.
Merci Alex. Vous appréciez les brèves, monsieur Fraise ?
C'est un j'habite la Saône-et-Loire.
Gros producteur de brèves.
J'allais dire, il est 17h24 à Bourvilain. C'est chez vous ?
Oui.
Alors ça ressemble à quoi Bourvilain ? C'est où ? Expliquez-nous.
Même ça, il va vous faire chier à répondre.
Non, c'est proche de Cluny.
Ouais.
L'abbaye de Cluny.
L'abbaye de Cluny, vous y aviez joué.
Mais bien sûr, près de Mâcon.
Il y a beaucoup d'habitants ?
Non.
Qu'est-ce qui se passe, cette passion soudaine pour la géographie ?
Bah, je m'intéresse.
Il y en a peu, mais ils sont plutôt âgés, parlent de chaudière, tout ça.
Véranda, faut des
choses. Véranda, ça, et pergola.
Et comment est-ce qu'on les appelle, les habitants de Bourvilain ?
Généralement...
On les appelle pas.
Alors on va passer au premier sujet.
Et je vous souhaite bien du plaisir.
Monsieur Fraise, attention.
Il est content.
Je vous signale que Monsieur Fraise est arrivé avec sous le bras un exemplaire du Figaro de ce jour.
Avec les pages saumon.
Exactement. Donc, je pense qu'il est au fait de l'actualité. Nous allons nous rendre compte tout de suite. Alors, dans plusieurs pays d'Europe, des comiques s'engagent en politique. Comme Bernard Guetta, par exemple. Comme Beppe Grillo en Italie. Et en Ukraine, il y a un acteur qui jouait le rôle du président dans une comédie et qui s'est présenté aux élections et il est en très bonne position pour être élu. C'est tout à fait vrai. Je vais vous expliquer après. Et donc, en France aussi, on a le nôtre, hein.
J'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau et je donne deux jours à la chaîne TF1 pour inviter tous les candidats, c'est pas moi qui suis en cause, et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte, et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Merci madame.
Nicolas Dupont-Aignan pendant la campagne sur le plateau du journal de TF1 et un petit mixage d'Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. C'est dans le Courrier international que nous avons lu cet article, qui relaye d'ailleurs un papier du journal de Zagreb, qui nous explique qu'en Ukraine, effectivement, il y a un acteur qui jouait le rôle du président, qui s'est ensuite présenté et qui est en très bonne position pour remporter les élections. Et que dans toute l'Europe, aux élections ou municipales, ou pour la présidence, il y a des candidats qui sont des acteurs comiques ou des humoristes. Pourquoi est-ce que les acteurs comiques pourraient-ils avoir du succès en politique ? Je sais que vous êtes un admirateur de Coluche. Est-ce que, si vous aviez vécu à cette époque...
Moi, dans mes calculs.
Ouais, mais il était très petit. Il était très petit. Il était très petit. Ça vous aurait séduit, ça pourrait vous séduire, un humoriste en politique.
Je pense qu'à l'époque ça m'aurait séduit. Aujourd'hui moins, parce que je trouve que là déjà ceux qui sont en place sont suffisamment drôles, quoi. Donc et pratiquement parfois même plus drôles que certains comiques. Hein. Donc ils font le boulot. Hein.
Ce qui explique que les comiques sont décomplexés pour y aller.
En plus, et puis je crois qu'ils ont un peu les mêmes formations que nous. Ils sont entraînés à parler en public, à essayer de pas endormir les gens. Ben ouais, enfin je fais semblant de bosser. Moi.
L'article du journal de Zagreb explique qu'un bon comique est un bon prédicateur, parce qu'il y a le sens de la formule, on l'a entendu tout à l'heure chez Coluche. Il y a le côté communication, le côté plus proche du peuple, anti-système. Tous des ingrédients qui sont là pour séduire. L'humour, si c'est une chose sérieuse, pourquoi un humoriste pourrait pas s'engager en politique dans le fond ? Parce que l'humour, est-ce que c'est sérieux, monsieur Fraise ?
Je pense que, moi, je suis toujours surpris des gens qui savent faire plein de métiers. Hein. Je trouve que celui de comique, d'humoriste sur scène, il est déjà costaud. Après le cinéma, là, c'est plus un métier, c'est vraiment la patte du gain. Mais se lancer dans la politique, dans écrire des livres, faire des films, je sais pas, je trouve ça gourmand, quoi.
Ouais. Gourmand, c'est vrai, c'est le terme.
La responsabilité du pouvoir, c'est pas quelque chose qui vous attire particulièrement, si je ne me trompe.
Et en fait, si, parce que par exemple, si j'ai cette chance d'avoir la vocation de savoir faire rire des gens sur scène, je trouve que c'est un pouvoir, voilà. Mm-hmm. Et je le prends de plus en plus au sérieux, ce pouvoir-là. C'est-à-dire, je dis, il y a quand même des gens qui écoutent, quoi.
Vous avez l'impression que l'utilise à bon escient?
Je crois que oui. Je suis assez fier en ce moment.
Non, c'est bien.
Quand je vous demandais si
ça durera pas.
Quand je vous demandais si l'humour est une chose sérieuse, c'est-à-dire que ça paraît facile et on pourrait avoir l'impression que vous improvisez sur scène, alors que j'imagine c'est beaucoup de travail, de répétition, de sérieux pour y arriver.
Oui, en tout cas, c'est l'idée, c'est de se moquer des gens, mais de le faire bien, quoi. Mmh. Donc oui, ça mérite. Maintenant, je m'échauffe. Donc je travaille pas qu'une heure et quart par semaine. C'est quasiment 10 minutes d'échauffement en plus.
Ah ouais, quand même.
Donc ça fait quand même, ça commence à.
Ça commence à facturer. Ouais.
Ouais. Ça se verra à Coignières, au Théâtre Alphonse Daudet, le 12 novembre. Notez.
Ouais,
vous passez aussi,
hein,
en Belgique, à Liège, au Vous Rire Festival, le 20 octobre. Vous serez aussi, j'ai vu une date, à Bruxelles. Oui, tout à fait, le 27 novembre. Voilà. Et à Talent, le 7 février 2020.
Normal.
Eh oui, bien sûr. Parce que monsieur Fraise, il est en tournée, bien sûr.
Mmh,
eh oui.
Une belle tournée.
À côté de vous. Et pour nos auditeurs, il y a Rukyata Ouedraogo.
Alors, le 20 mars dernier, j'étais la marraine de la Journée internationale de la francophonie. Oui, mes coucougnoufs.
C'est nous les coucougnoufs.
Voilà. J'étais très contente. Alors, j'ai appelé toute la famille, histoire de dallasser un peu. Enfin, de frimer comme JR dans Dallas. J'ai appelé maman, les tantes, les cousines, les nièces, les neveux et bien sûr, mon tonton Théophraste. Allô, tonton, ça fait 2 jours, hein. Alors, quoi de neuf? Ah, tout est vieux, ma fille. Hé, tonton, ouvre bien tes 2 oreilles. J'ai été choisie pour être la marraine de la Journée internationale de la francophonie. Et en plus, c'est moi qui vais lire la grande dictée. Hé, ma fille, c'est toi qui vas lire la dictée au français? Au français? Non, c'est petit ça, tonton. Au francophone du monde entier. Po. Et Macron, il fera la dictée aussi? Ah, ça, tonton, je ne sais pas. Hein. Mais une chose est sûre, il sera présent. Ah, ma fille, tu es devenue un grand quelqu'un. Hein? On a quelqu'un de portant. Ah, tonton, ta bouche est trop sucrée aujourd'hui. Hein? Et dis, ma fille, dis à Macron qu'il ne faut pas qu'il oublie sa promesse. Hein. On attend toujours qu'il nous restitue nos objets. Et à ce propos, dis-lui que je vais trouver ma montre. Ce n'est pas la peine qu'il la cherche là-bas. Ok, tonton, je lui dirai. Et tonton, tu sais que tu peux aussi faire la dictée? Si tu veux, bien sûr, ce sera en direct à la télé. Ah, ma fille, avec le délestage qu'on a ici, là, le programme de la télévision, on ne peut jamais savoir à l'avance. Hein. Soit c'est la télé allumée, soit c'est la télé éteinte. Ah oui, ça c'est vrai, tonton. Hein. C'est un vrai problème, ça. Eh, mais ma fille, ici, chaque problème a sa solution. Si on donne un petit tétois suffisant, un bakchiche, au technicien de l'électricité, histoire de mouiller sa barbe, le soudoyer,
il fera des lestages dans un autre quartier et nous, on pourra suivre la dictée. Donc, j'ai fait un transfert d'argent à tonton Théophras pour le tétois. Et à propos de Bakchiste, hein, on croit toujours que c'est les présidents africains qui envoient des mallettes de billets aux politiciens français. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. L'argent de la diaspora va alimenter tous les mouillages de barbe de l'Afrique. Moralité dans cette histoire de France-Afrique-là, l'argent tourne en rond. Donc, le délestage n'a pas eu lieu le jour de la dictée. Et toute ma famille, manche longue, la famille élargie, était dans le salon devant la télé, les mémoires transpirant, stressant. Chacun revivait en souvenir les coups de chicotte de son instituteur. La dictée, ma sœur, vaut mieux la lire que l'écrire. Moi, j'étais trop contente d'être du bon côté cette fois. Je m'imaginais tonton Théophras, lui, qui est le long crayon de la famille, l'intelligent, quoi, l'intellectuel. Qu'allait-il se passer s'il faisait beaucoup plus de fautes que tante Oumou, la vendeuse de poissons? D'ailleurs, un peu inquiet, il m'avait demandé « Eh, ma fille, dis-moi, j'espère que la dictée là, ça ne va pas être trop caillou, hein ?» Ah, mais bien sûr, tonton, il faut que ça soit un peu dur, car l'Organisation internationale de la francophonie a prévu de cadoter les gagnants. Oui, 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 tonton, il y a 2 billets d'avion à gagner. Moi aussi, j'étais stressée, car j'avais peur qu'à cause de mon accent, beaucoup de gens fassent des fautes d'orthographe partout dans le monde. Non, mais vous vous imaginez des millions de fautes par ma faute. Mais le plus intéressant de cette journée, c'était la photo de famille avec le président Macron. Au début, j'étais bien placée et j'ai même cru que j'allais pouvoir lui casser l'os, lui serrer la main.
Ah, j'ai peur.
Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de bataille de coudes et petit à petit, sans même me rendre compte, je me suis mise à reculer et quand le photographe a crié « souriez », j'étais déjà repoussée loin, 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 là-bas derrière, là où le chien est mort, là. Moralité, sur la photo de famille de la francophonie, on voit Macron devant et puis tout au fond, une petite tache noire avec une grosse touffe, c'est moi. Vive l'Afrique, vive la France, vive la francophonie.
Merci Rukyata Ouedraogo. Mais Rukyata, donc vous avez vu Jupiter en vrai?
Oui.
Mais dites-nous alors, il sent bon?
Je ne me suis pas suffisamment approchée de lui comme ça.
D'accord.
Mais il est beau.
Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Non, pas grand-chose, non.
Hein?
Pas
grand-chose. Il a fait la dictée ou pas, non?
Non, il n'a pas fait la dictée. Non, il est venu après.
Filou. Ah, d'accord.
Ouais. On aurait vu s'il était à le cours de français.
Ouais. Il vous a serré la main.
Non, j'ai pas pu. Je pensais que j'allais lui serrer la main.
Oh là
mais
là
non,
ça marche comme ça.
Ils m'ont poussé jusqu'au bout.
Oh là là, c'est quand même terrible. Vous écoutez France Inter, vous apprenez des choses. Il y a des scoops. Il y a des rencontres.
Il y a des choses qui se disent.
Il y a des rencontres qui se font. C'est la grande famille de la francophonie avec Monsieur Fraise. Levez les drapeaux, vous écrivez, écoutez par Jupiter. C'est France Inter, à venir Guillaume Meurice, tous aux abris. Rompez.
Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Ounasoukiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Ounasoukiri. Maque le pas, un, deux, ancien combattant, Ounasoukiri. Maque le pas. Ancien combattant, Ounasoukiri. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatras, cadavère. Le peuple, cadavère. Les militaires, cadavère. Les rois, cadavère. Les reines, cadavère. Tous les présidents, cadavère. Les ministres, cadavère. Tous les mondes, cadavère. Et moi-même, cadavère. Marque le pas, un, deux, c'est combattant. On a sauté. Marque le pas. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le couler, couler les œufs. Le footballeur ne va plus le fouter, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le fouter, pousser le ballon. Cadaver, les joueurs, cadaver.
Cadaver, ta femme, cadaver, ton premier bureau, cadaver, ton deuxième bureau, cadaver.
combattant,
on a sauté.
Marque les pas, un, deux, pour ce combattant,
on a sauté.
Marque les pas, un, deux, pour ce combattant,
on a sauté.
Marque les pas, un, deux, pour ce combattant,
on a sauté.
La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les patriotes, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé. Oh.
Calavera,
ton pays,
calavera.
La France,
calavera.
L'Italie,
calavera.
L'URSS,
calavera.
Les États-Unis,
calavera.
L'Allemagne,
calavera.
Les enfants,
calavera.
Tout le monde est
calavera.
Ça jase ici dans ce studio. Rukiata, ouais. Elle est à fond.
À la
mais qu'est-ce que c'est
Ah, mais c'est toute mon adolescence. On a gâté le coin avec cette chanson-là.
On a gâté le coin avec cette chanson. Zao, ancien combattant.
Oui.
Vous écoutez ça depuis que vous avez quel âge, Rukiata?
Oh là là, depuis que j'ai 12 ans peut-être ou quelque chose comme ça, ouais.
Ouais.
Ah oui, ça date. Hein.
Et on danse là-dessus et tout.
Ah, oh, on adore ça. Ouais, on danse bien, oui.
C'est super. Ancien combattant, le Congolais Zao.
On a récupéré sur Twitter, je pense, un auditeur, ouais, des grosses têtes, qui nous dit: votre invité habite proche de Cluny, parle-t-il la langue de là-bas? Le Cluny-Lingus.
Excellent.
Hein. Et voilà, excellent. Oui, on les récupère ça, un par un, ces gens-là.
Bien sûr.
Il est avec nous, Doudou Galak. Continue, ne lâche rien. Ne retourne pas sur la tête, mon gars. Tu es le bienvenu ici aussi.
On te garde. Monsieur Fraise est avec nous. Il est en tournée, notamment à Gonfreville-Lorcher. Ce sera le 27 septembre. À Château-Gontier, le 18 octobre. À Flers, le 11 décembre. Marseille, ça je connais, 17 et 18 décembre.
C'est le premier invité qui est déprimé quand vous donnez.
Saint-Oran, c'est génial, vous allez dans toute la France. Bah, c'est super, allez voir Monsieur Fraise, on vous le recommande chaleureusement. Guillaume Meurice, oui. C'est à vous.
Eh bien, France Inter, vous le savez, nous sommes écolos depuis hier. Hein, depuis que Laurence Bloch, notre directrice, s'est cognée le petit orteil contre son ficus. Eh bien, on est écolo, ça y est. Elle fait la guerre aux bouteilles en plastique. Par contre, les pubs pour les grosses bagnoles sont toujours à l'antenne. Alors, est-ce qu'elle fait partie de la sauce SOS Joanne Culasse? Je ne sais pas. On sait qu'elle fait du tuning, hein, notamment sur ses cheveux. Mais le reste, on ne sait pas. Pourtant, le transport, c'est un des principaux responsables des gaz à effet de serre. Hein, je vous apprends rien. C'est l'équivalent en termes de dégâts sur l'humanité d'une chronique dans une mission de Thierry Ardisson, selon le très sérieux institut de recherche Meurice and Co. D'ailleurs, Bolloré, chez qui sont diffusées les émissions d'Ardisson, a aussi des boîtes dédiées au transport. Hein. Le gars est quand même un minimum cohérent en termes de pollution. Alors, pour parler de tout ça, je suis allé au congrès des pros du transport qui tentent de se moderniser. Commençons avec une première société de transport routier. Est-ce qu'elle roule pour l'environnement?
Absolument, c'est vraiment pour l'environnement.
Oui, en plus, votre plaquette est verte.
Voilà, notre plaquette est verte, exactement, et notre logo est vert.
Et... Ouais, donc vous êtes complètement écolo.
Complètement écolo.
Complètement, là on est vraiment dans l'écologie radicale, hein, j'ai envie de dire. C'est comme la liste de Macron aux européennes, il y a Pascal Canfin dedans, on est dans l'écologie. Et c'est pas du greenwashing, hein, Canfin, il a quand même moins de charisme qu'un paquet de lessive, donc arrêtez la mauvaise foi avec ça. Et continuons tous ensemble à cesser de dire que le transport est l'une des plus grosses sources de pollution.
C'est une fausse image. On n'est de toute façon pas les plus gros pollueurs, hein, en France. Hein.
Vous êtes pas mal placé quand même.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous ne seriez pas dans le top 3 par exemple?
Je ne pense pas.
Il est modeste. Il est deuxième. Le secteur des transports en France, c'est le deuxième. Alors ça se joue à rien, mais c'est comme ça. Hein. Des fois, voilà, c'est comme en foot. Hein. Des fois, on a une bonne possession de balle, puis on termine dans les poubelles de l'histoire. Attention, je crois que le Somme se recycle dans la poubelle bleue. Voilà. Alors une question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut pas transporter moins?
Non, c'est transporter mieux. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions. Voilà.
Mais si on consommait moins, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'autant de camions.
C'est pas faux, mais ça, c'est un problème.
Ça vous arrangerait pas.
Tout à fait.
Bon, alors, faut continuer à consommer pour pouvoir avoir des camions encore.
Oui.
Oui, il y a le suspense, mais c'est oui, il faut consommer un maximum de conneries. Je vous rappelle que notre modèle économique est bâti sur la croissance des cellules cancéreuses essentiellement, mais la croissance quand même. Donc la pollution, c'est vrai que c'est, voilà, c'est on s'en fout. Nous, on a pris une chroniqueuse du Burkina Faso. Donc ouais, en termes de bilan carbone, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est vrai. Si ça se trouve, c'est ça qui fâche Éric Zemmour. Il est écolo en fait, le gars. Il en a marre de ça. Ah, et d'ailleurs, on le sait, il est écolo parce qu'il recycle son propre vomi. Hein, il en fait des livres. Hein, je vous rappelle. Mais pour les camions, les solutions existent. Par exemple, les taxer, qu'en pense ce transporteur ?
Si, certainement. C'est vrai que
vous êtes pour taxer les camions, là.
Oui, mais les camions étrangers qui traversent juste la France.
Uniquement les étrangers.
Voilà, ça serait pas mal.
Est-ce qu'on pourrait pas taxer aussi les camions français ?
Oui, mais on est déjà suffisamment énormément taxés. Notre marge est très très faible dans le transport. Très très faible.
Mais eux, ils vont dire la même chose, peut-être, les étrangers.
Tout à fait.
Oui, mais c'est des étrangers. Donc c'est vrai que voilà, on s'en fout, les étrangers. Donc je vous rappelle la règle. S'ils sont sur l'Aquarius, c'est non. S'ils achètent des Airbus, c'est
oui.
C'est oui, c'est oui, c'est oui. Vous gagnez une encyclopédie en 5 volumes sur les raclures de bidet, préface de Matteo Salvini. Et on continue avec les transporteurs.
On a tous une sensibilité écolo. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie de développer.
Au niveau de la sensibilité,
ouais,
c'est bon ?
Non, la sensibilité, c'est une chose, et après, comment on la met en œuvre ?
Voilà, et alors du coup, comment vous la mettez en œuvre ?
Il y a des nouveaux modes de transport, il y a entre autres le fluvial.
Ça pollue pas, ça, le fluvial ?
Non, parce que quand vous mettez une barge sur un fleuve pour faire une.
Elle avance comment, la barge ?
C'est des pousseurs avec une barge sans.
Mais ça pousse avec du diesel, par exemple ?
Oui.
Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. Alors ça pousse plus de trucs puisque c'est une barge, mais bon, ça, voilà, il y a du diesel quand même. Hein. Les barges ne sont pas la solution. Même nous, on en a une de barge qui s'appelle Juliette Arnaud, mais c'est pas la solution quand même. Elle roule au biocarburant d'ailleurs, je crois. Hein. Elle est, c'est de l'éthanol, hein, bien sûr. Bon, et c'est pas la seule d'ailleurs à rouler à l'éthanol. Vous allez le constater, car comme toujours en Europe et malgré mes moqueries misérables, la solution pour apaiser les tensions vient de Belgique, puisqu'à un salon dédié au transport, ils sont venus avec quoi ?
On a toujours eu notre pompe à bière. Elle a... Je ne sais pas si les gens viennent pour ça, mais en tout cas, elle a toujours son succès.
Est-ce que le transport, c'est compatible avec la bière ?
À cette heure-ci, on n'a pas encore eu de problème.
Et voilà, ils offraient de la binouze dès 9h du mat. C'est comme voilà, une belle métaphore du réchauffement climatique. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, ce n'est pas le réchauffement, c'est quand ce sera cuit.
Merci Guillaume Meurice. Mais je vous trouve un peu de mauvaise foi parce que ces gens-là, ils ont quand même un petit sapin odorant accroché
c'est la nature.
C'est à la nature aussi. Oui, 17h44 sur France Inter en compagnie de Monsieur Fraise qui est à l'Européen jusqu'au 29 juin. Et vous allez tourner dans Platane 3 d'Éric Judor au printemps. Oh, que chance.
Ouais, il paraît. Ouais.
Oh, ça va être trop trop bien, non ?
Ouais, j'ai de la chance. C'est un copain.
Ah ouais, ah ça marche comme ça.
Ouais, c'est okay.
Allez, deuxième sujet, avant d'écouter Juliette Arnaud. Ce week-end, on passe à l'heure printemps-été 2019. Plus pour longtemps, puisque l'Europe a décidé d'en finir avec le changement d'heure. Une décision forte. Car si c'est l'heure d'été qui est choisie, les villes les plus au nord connaîtront des matins d'hiver plongés dans l'obscurité. Avant les premiers rayons du soleil à 9h10 à Dunkerque et des soirées estivales longuement lumineuses, le crépuscule s'achevant vers 23h. Vous avez vu le temps, c'est tout chamboulé. C'est tout chamboulé, bah oui.
Alors que chaque année, le changement d'heure perturbe beaucoup d'habitudes chez nos voisins européens, cela fait bien rire nos concitoyens grolandais.
Bon, ça m'étonne pas, c'est des cons.
Il faut dire que chez nous, on a pris le pli depuis bien longtemps. Ainsi, chaque jour à 11h, tout le monde avance sa montre d'une heure pour qu'il soit midi. Et à 14h, tout le monde la recule de 2h pour qu'il soit midi. Résultat, 3h d'apéro toute l'année.
Bravo, bande de cons !
Mais bon, tout le monde n'a pas forcément le génie grolandais.
C'est un article que nous avons trouvé notamment dans les décodeursdumonde.fr. Monsieur Fraise, je pense que la France attend votre avis sur le changement d'heure.
Mais elle peut toujours attendre, ouais.
Pauvre France.
Eh ben, pourtant, il y a quand même une grande différence entre, par exemple, le nord et le sud pour la luminosité et l'est et l'ouest. Alors, par exemple, les 900 km qui séparent Strasbourg de Brest, attention, impliquent un décalage de quasiment une heure de luminosité. Donc, monsieur Fraise, si vous jouez à Strasbourg, il fait noir plutôt qu'à Brest.
Et je termine plus tard, comment
Bah, si vous voulez, parce que ça ne fait pas noir à la même heure.
Ah ouais, c'est intéressant.
Bah, ça change tout.
Bah, il me semble.
Non,
voilà.
Moi, ouais, j'aime bien l'heure d'été, parce que je sens qu'il faut vraiment injecter quelque chose dans ce débat.
Parce que... Vous êtes content de passer à l'heure
d'été ?
Non,
parce que je m'en fous un peu le matin, que s'il fait clair ou pas clair, on va travailler. Voilà. Mais quand on sort, c'est assez sympa d'avoir... Ouais. C'est un coup de vitamine D qui me manque très souvent l'hiver.
Oui, ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec Alex.
Mais on peut voter. Oui. Parce que
mais au Burkina, le jour, il tombe toujours à la même heure.
À 18h, oui. À 18h, il fait déjà nuit.
Et le soleil se lève toujours à la même heure ou pas ?
À peu près.
c'est-à-dire vers
je pense vers 5h, quelque chose, 5h45, quelque chose comme ça.
Eh ben voilà, ben c'est très bien ça, c'est l'heure d'hiver. Moi c'est ça que
ouais,
je veux.
Ouais, c'est ça, on a l'heure d'hiver.
Eh ben moi j'ai vu au Burkina,
largement l'heure d'ici parce que les apéros on peut...
Et voilà, ça, c'est...
N'est-ce pas Juliette?
Le dolodrome.
Mais moi je trouve qu'on boit beaucoup mieux la nuit.
Vous avez dit quoi?
Si, on l'a entendu, mais c'était...
On l'a enregistré, celle-là.
Ouais, ouais.
Bigger a connu une fin de carrière pire, quand même. Pour moins que ça.
Guillaume Meurice, tout à l'heure, vous m'avez raconté une anecdote sur Monsieur Fraise qui s'était cassé la cheville. Je trouvais ça intéressant, c'était révélateur du travail de Monsieur Fraise.
Est-ce que c'est pas vrai, ça, Monsieur Fraise, qu'un jour vous avez joué votre spectacle et comme vous jouez toujours sur le malaise, les silences et qu'il se passe un peu des trucs de fou, vous êtes pété la cheville, vous êtes parti hurler en coulisses et les gens ont beaucoup ri parce qu'ils pensaient que c'était un spectacle.
Ma cheville était tellement explosée, ouais. J'avais explosé. C'était une déchirure musculaire que je suis resté sur scène à souffrir le martyr, mais avec le sourire.
Ah oui.
Et que les gens étaient convaincus que je faisais semblant. Ouais. Bah, sauf que quand même, mon mollet faisait la taille de ma cuisse.
C'est pas conseillé,
même
quoi.
Pas remonter mon...
Un numéro unique, hein, que vous ne verrez pas
un
chez
quart
Monsieur
d'heure
Fraise.
Avant qu'il réalise que c'était vrai.
Et Monsieur Fraise, il a fait d'autres trucs encore plus hallucinants. Par exemple, il a été au Festival d'Avignon où il n'était pas programmé.
Oui.
Il a imprimé des affiches avec marqué « Je ne suis pas programmé ». Voilà. Et il a tracté en disant aux gens « Je ne joue pas au Festival d'Avignon ».
Et vous savez pourquoi on le sait? Parce que cette année-là, on voulait l'interviewer pour savoir ce que les gens n'allaient pas voir. Et quand on lui a téléphoné, c'est son fils qui a répondu. Et donc, l'interview était très bref. Il était derrière à dire non, je réponds pas.
Je m'en souviens.
Et donc voilà, c'était voilà. Et là, on s'est dit, il faut qu'on réinvite ce gars pour qu'il parle longtemps, qu'il puisse exposer ses théories, parce que
on sait qu'il était spécialiste du changement d'heure. Hein, c'est un spécialiste français.
C'est vrai. C'est tous les gens qui viennent des grosses têtes pour nous écouter sont scotchés par cette émission. Hein. Ils vont vraiment avoir envie de rester. Justement, ça tombe bien parce qu'à ce moment-ci, il y a un conseil lecture de Juliette Arnaud. Vous repartirez pas sans rien. Voilà.
Alors, avant d'en arriver au livre du jour et à Van Gogh, qui est le personnage principal du livre du jour, on va faire un petit détour par un film, enfin la fin d'un film. Le film, c'est Into the Wild. Alors oui, Alex,
oui.
Je vais spoiler,
oh non.
C'est mon plaisir crado.
Les gens
l'aiment
et
puis
pas,
là,
hein.
J'ai droit, ça sert à ma démonstration, c'est vous.
Il meurt à la fin.
Alors il meurt, mais il y a un petit truc juste avant la mort. Donc c'est un jeune homme qui tourne le dos au rêve américain et qui prend la route. Il finit par arriver jusqu'en Alaska pour éprouver l'extrême solitude et la nature la plus âpre. Il n'y survit pas et il meurt tout seul, tout bleu. Et là où c'est couillon, c'est que pile au moment où il a pigé le truc, au moment où il a écrit sur son carnet, juste avant de mourir, « Le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé ».
Ça c'est
un peu triste quand même. Bon. Et Vincent Van Gogh, vous allez me dire, eh ben c'est ça la tristesse, c'est que ça, le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. Vincent, il le savait, il l'a su toute sa vie. Lui qui ne rêvait que d'émulation, de camaraderie et d'amour, qui souffrait chaque jour de se sentir, de se savoir un étranger parmi les hommes et qui ne voulait pas être un étranger parmi les hommes. Le livre d'aujourd'hui démarre à Arles, au moment où Van Gogh est à Arles. Coucou les tournesols, vous savez, plus tard vendu à plus de 40 millions d'euros, alors qu'à l'époque, évidemment, Van Gogh est... extrêmement pauvre. Et Vincent Van Gogh attend la venue de Paul Gauguin. Il y met dans cette venue une espérance folle. Il l'admire beaucoup, beaucoup. Gauguin et finit d'ailleurs par venir ce gros mufle. Oui, Alex? Non, j'aime pas trop Gauguin.
On
ça se sent, ce que je dis? Ouais, ça se sent. Bah, tant mieux. Ce gros mufle, donc, de Gauguin, si vif à se faire aimer des femmes et des gens en général, est tout aussi vivement excédé par Vincent, qui finit par penser à voix haute. Gauguin pense que je ne suis pas un créateur. Pour lui, je ne fais que recopier servilement la nature. Alors, qu'est-ce qu'il excède exactement, Polo? Ce qu'il excède, c'est que Vincent Van Gogh, il est prolifique. Il est prolifique en tableaux, plus de 1000 toiles sur 10 ans. Il est prolifique en lettres, il en a écrit plus de 600 à son frère Théo. Il est prolifique aussi en angoisse. Il est frappé d'hyperesthésie, qui est une exacerbation pathologique de l'acuité visuelle et de la sensibilité des divers sens. D'où sans doute cette volonté chez Van Gogh de faire, et je cite l'auteur, un art consolateur pour les cœurs navrés, comme le sien de cœur. Van Gogh, il a vite l'air d'un fou. Il travaille dehors à Arles en se disant des mots ou des encouragements incompréhensibles pour les autres. Dehors, face au motif, qu'importe le jour ou la nuit, le vent ou le soleil, parce que c'est ainsi, dit-il, qu'on attrape le vrai et l'essentiel. Et les gens, et Gauguin, n'aiment pas les fous. Les gens n'aiment pas ceux qui jouent du piano debout, ça on le sait. Et également, les gens n'aiment pas ceux qui ont des camionnettes blanches, ça on l'a bien compris aussi. Alors les gens d'Arles chassent Vincent, qui arrive alors à sa destination finale, Auvers-sur-Oise. Et là, le titre du livre, que jusqu'à présent je vous avais délibérément dissimulé, et qui s'appelle Vincent qu'on assassine. Et alors là, vous allez me dire, mais enfin, n'importe quoi, le Chardonnay, il a eu raison de sa petite cervelle de bonne femme, Van Gogh s'est suicidé, tout le monde sait ça. Sauf que, probablement, tout le monde, et ce depuis plus d'un siècle, se plante. En 2011, deux historiens américains ont pondu un énorme bouquin sur Van Gogh de plus de 1000 pages qui s'achève par cette affirmation. Vincent Van Gogh ne s'est pas tiré une balle dans le ventre avec un pistolet. D'ailleurs, c'est très très bizarre pour se suicider quand même de se tirer dans le ventre. Un pistolet que d'ailleurs il ne possédait pas. On lui a tiré dessus. On, ces deux jeunes gens du coin, les frères secrétants. Sauf que Vincent s'est tué pendant les 36 heures qu'a duré son agonie, ne voulant sans doute pas les accabler, son cœur navré, peut-être soulagé d'en finir. Alors pourquoi l'écrivaine Marianne Jéglé, elle qui sait le sens des mots, hein, elle est de formation agrégée de lettres, pourquoi elle parle de Vincent qu'on assassine lorsqu'assassinat, c'est un homicide commis avec préméditation? Parce que tout au long du livre, au plus près de Vincent, elle livre avec empathie, en nous restituant comme si c'était la nôtre, la sensibilité du peintre, avec finesse, les multiples attaques que lui font subir tous les hommes avec un grand H, le monde dans lequel il vit, jusqu'à celle finale dont il ne saura pas se relever. Et si Van Gogh vivait de nos jours, est-ce que ce serait mieux? Est-ce que la vie de Van Gogh, elle serait moins invivable? Franchement, je me pose encore la question. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est paru en poche?
Oui, bien sûr, parce que cette semaine, j'ai fait que la peinture et que les poches.
On a remarqué.
Vincent, eh ben j'ai le droit.
Moi, je voulais être sympa, mais...
Vincent qu'on assassine, elle s'appelle Marianne Jéglé, et donc c'est chez Poche, donc c'est pas cher.
Merci Juliette Arnaud, je me souviens, j'étais avec vous quand vous l'avez acheté, vous avez craqué sur le titre, tout simplement.
Ben oui, parce que je pensais pas que c'était sérieux, et puis après, et ben, j'ai appris que il a été probablement assassiné.
Coup de cœur pour un livre à partir d'un titre, c'est formidable. 17h53 sur France Inter avec Monsieur Fraise, et ce dernier sujet, car la France Inter attend votre avis sur ce sujet aussi.
Bien sûr, c'est votre dernière chance de faire l'idée... des prestations.
L'idée a surgi. Il y a 10 ans au Japon, pays de grande solitude, l'idée de louer un ami. Ah. Ça coûte en France de 8 à 10 euros de l'heure pour un jogging ou une soirée théâtre. Mais pas que.
Finalement, la seule chose qui va me manquer pour cette soirée, ce sont des amis. Oui. C'est pour ça que je suis venu vous voir. J'aimerais vous louer une douzaine d'amis environ. Bah oui, je sais bien que je m'y prends un peu tard parce que c'est pour ce soir. Là, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'au dernier moment... T'es idiot. Bah oui, c'est bien. Bah surtout que ça fait un mois que je veux la faire, cette soirée entre amis. Et c'est que ce matin en me levant que j'ai réalisé que j'en avais pas.
Ce sketch de Pierre Palmade date de 2000. Spectacle Premiers Adieux. Ça signifie qu'un sketch de Pierre Palmade de il y a 19 ans est devenu la réalité. Et c'est même devenu un business. Peut-être une réaction, Monsieur Fraise, là-dessus?
Je suis pas surpris du tout.
Ah, c'est vrai?
Non, que ça existe, effectivement.
Est-ce que Monsieur Fraise serait un bon ami à louer?
Je pense pas, non. Moi, je trouve que c'est pas une si bonne idée, louer des amis, parce que c'est plutôt facile de s'en débarrasser de ses amis. Il faudrait louer des enfants. Ah. Pour que les gens se rendent compte de ce que c'est d'avoir des enfants.
Ouais.
Ah, c'est pas mal,
c'est
ça.
C'est bien, ça.
Ouais.
Mais des biens propres, déjà
pareil,
un peu éduqués.
Faut prendre des nouvelles lois, mais. Comme ça, on ferait peut-être pas trop d'enfants.
Ah, d'accord. C'est avant d'en faire, d'accord.
Comme un vaccin.
Mais alors, c'est fou parce que c'est Pierre Palmade qui a eu l'idée, quoi. Et maintenant, il y a des gens qui font du business avec ça. Ouais. Alors qu'il y a un gars, il a eu l'idée avant.
Ah ben, c'est possible que ça existe depuis longtemps aux États-Unis ou dans des pays.
Non, c'est il y a 10 ans au Japon. Que c'est... Ah ouais. Si vous aviez écouté quand je parle, ben.
Ah, mais c'est ça, le bruit de fond que j'entendais tout à l'heure, c'est vous.
On se fait tous engueuler. Et si l'autre il répond pas, c'est lui qui va vous engueuler. Alors, ça, excusez-moi, mais. Voilà. C'est pas gagnant.
Bon, voilà.
Si vous m'aviez écouté, j'ai déjà fait une chronique sur le thème il y a 2 ans. Mais bon. Je voulais pas la ramener, mais bon, voilà.
Voilà. Moi, ce que je trouve un petit
peu. C'était le dernier numéro de cette émission, parce qu'on a tous se disputer, se séparer.
Je trouve un petit peu délicat dans cette histoire de louer des amis, parce que typiquement Vincent Van Gogh, il aurait sans doute, enfin lui vraiment, il aurait aimé avoir plus d'amis, mais il était pauvre, et donc il aurait pas pu se les. Donc ça voudrait dire que c'est comme le sexe, c'est que toutes les choses, alors finalement de l'affect, ça relève toujours du blé.
Oui. C'est triste. Hein.
C'est pas juste.
Mais surtout, ça sert à rien, les amis, c'est chiant. Ça, c'est
allez, le sketch.
C'est vrai.
Il est toujours par trahir.
On a encore fait un bon débat. Hein. Il y a quelqu'un, quand même, je vais vous lire sur Les auditeurs s'interrogent. Aujourd'hui sur France Inter, émission de par Jupiter totalement lunaire, pas encore compris si c'est du premier, du second ou du 15e degré. Eh bien Jean-Yves, il y a le sketch qui arrive, mon pote, tu vas être rassuré. Alors, monsieur Fraise, vous êtes chef de chantier au Qatar, parce que Vinci s'est fait taper sur les doigts, parce que soi-disant, les conditions de travail sont pas bonnes là-bas. Alors ils ont dit, vous avez qu'à venir voir. Eh bien Guillaume Meurice faisait partie de l'ONG, viens voir. Charline et moi, nous sommes travailleurs qataris sur les chantiers, et monsieur Fraise, vous êtes le chef.
Alors j'imagine que vous savez comment se passe un audit.
De test. Et
qu'est-ce que vous faites?
Test.
Pardon, mais c'est pas une audition pour un télécrochet, hein?
Ah bon?
Mais non, c'est un audit pour un chantier.
Allez-y, je suis prêt, j'ai mis mon casque.
Bon, est-ce que vous reconnaissez que vos ouvriers sont payés 450 euros net par mois?
Non. Je change de tête.
Ouais, ouais.
C'est ça. Donc c'est à moi. Et oh, on voit bien que c'est pas vous qui bossez par 50 degrés.
Pourquoi vous ne baissez pas la température?
La température du soleil.
C'est scandaleux, monsieur le chef de chantier.
Dans mon bureau, ça va, j'ai la clim.
Bon, à propos de bureau, parlons du logement.
Allez-y, j'ai bien révisé les calculs de surface, les mètres carrés, tout ça.
C'est normal que vos ouvriers soient logés par chambre de 4, là.
Vous trouvez qu'on pourrait en entasser un peu plus?
Non mais puis quoi encore? Vous voulez nous parquer dans un placard à balai?
On peut plus! On bosse 12 heures par jour! 6 jours sur 7!
Attendez, 12 fois 6, 72...
72 heures de travail par semaine!
Merci, je sais compter, c'est quand même moi qui ai dit 72.
Oui, ouais. Et une heure de bus le matin.
Pareil le soir!
1 plus 1 égale 2.
Oui, bah bravo, ça c'est bien, d'accord.
2 fois 6 égale 12, 6... Parce que je leur donne congé le dimanche en plus.
Non, bon, on vous dérange là peut-être ou comment ça se passe?
72 plus 12, 84. Eh ben mon vieux.
Non, mais vous rendez compte?
Ne me déconcentrez pas, je remplis ma grille de loto.
Et pendant ce temps-là, c'est nous qui trimons.
Merci Qatar!
Quand même. C'est moi, un peu de reconnaissance.
Mais ouais, c'est vrai que cette histoire de billet d'avion seulement tous les deux ans, là.
Si, c'est vrai, ça m'arrange pas, j'ai déjà coché le 2.
Ah, il manquerait plus que vous remportiez le gros lot sur le dos de vos esclaves.
Merci. Mais ça, c'est déjà fait.
Vous voyez, quand on lui donne le texte, il est impeccable, hein.
Monsieur Fraise, qui est en tournée dans toute la France dès la rentrée, dès le mois de septembre. Vous passez par Bruxelles, Alençon, Marseille, Antibes. Antibes, ce sera les 14, 15 et 16 mai 2020. Il faudra être un peu patient. On vous voit au cinéma aussi, tiens, dans Le Mystère Henri Pic.
Qui est sorti il y a deux semaines.
Ouais, avec Fabrice Lucchini, dites donc. Et puis on verra dans L'Enfant Roi auprès d'Emmanuel De Vos, dans Platane 3 d'Éric Judor que vous tournez, dites donc. Et monsieur Fraise en tournée, bien sûr, mais aussi à l'Européen jusqu'au 29 juin.
Ah oui, venez.
Comme dit Guillaume Meurice, si vous n'aimez pas, il vous rembourse.
Je vous rembourse la place, promis.
Merci Rukia Wedraogo, Juliette Arnaud, merci Alex et Guillaume, monsieur Fraise. Nous allons nous retrouver demain avec les Ogres de Barbac et sans doute une petite surprise de Frédéric Fromet. Et je vous laisse le mot de la fin, monsieur Fraise.
J'aimais bien l'idée que les gens serrent les fesses avant de rire.